6h05, lundi 17 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, trois belles journées pour commencer. Ce matin, ciel généralement dégagé, 10 degrés. On prévoit du soleil toute la journée, 25. Merveilleux. Demain, c'est du soleil, 27. Et mercredi, c'est du soleil, 29 degrés. Vers la fin de la semaine, des températures demeurent quand même hautes, mais davantage de temps nuageux, de temps couvert et peut-être un peu de pluie de prévu vers la fin de la semaine. Mais on va se concentrer sur lundi, mardi, mercredi. Alors, il fait beau et il va faire quand même chaud. Bon, on a appris hier que le psychodrame va peut-être connaître son dénouement. Demain, 17h, point de presse du premier ministre François Legault. On connaît la stratégie. 13h, nouvelle ou décision mineure. Et 17h, habituellement, c'est un peu plus costaud. Et Québec va donc présenter son plan de déconfinement. Ce qui va être important de savoir, jusqu'où ira Québec et quel est le calendrier. Et on comprend qu'un des objectifs, c'est que 75 % des Québécois aient reçu une première dose ou qu'un rendez-vous pour une première dose soit pris. Hier, le ministre Christian Dubé a tweeté, c'est une question de jours là, avant que ça se concrétise. Et d'ailleurs, l'opération vaccination va très bien. Sérieusement, là, j'ai pas rien à dire que du positif, dans le fond, parce que tous les gens qui témoignent de leur expérience sont aux oiseaux. C'est-à-dire que le service est efficace, le personnel est courtois, gentil, aimable. Il y a des gens qui sont toujours un peu nerveux, les aiguilles, bon. Mais dans l'ensemble, ça se passe super bien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir accès à la première clinique de vaccination à l'auto, prise de rendez-vous. Là, ça se passe à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et on peut vacciner jusqu'à 4 personnes dans un véhicule. Et il y a d'autres types de cliniques comme ça là, qui risquent également d'ouvrir bientôt. Mais revenons au plan de déconfinement. Là, on va arrêter de se conter des histoires quand même. Là. C'est que les gens, puis on le voit là, puis on vous parlait tantôt de gens connus, Rémi-Pierre Paquin, vous avez Martin Matte qui commence à dire, écoute, si je ne peux pas recevoir du monde dans ma cour, comment t'expliques des rassemblements dans les parcs, comme on a vu en fin de semaine, comme on a vu le week-end passé, puis comme on va le voir aussi en fin de semaine? Ça commence à être difficile à accepter pour les gens. Et de ces rassemblements, il y en a eu plein, sur des balcons, dans des cours arrière, dans des petits espaces publics. Des gens qui me parlaient, par exemple, en arrière de grands commerces, tu sais, une zone industrielle, par exemple, où les chaises sont installées puis les gens se réunissent. Et vendredi, on a eu cette espèce de message de l'Agence de santé publique du Canada qui donnait un peu, disons, les critères pour le déconfinement. Puis là, on a entendu ça, peux-tu vous dire qu'on a dit une minute, là? Ça nous semble un peu strict, pour ne pas dire autre chose. Alors, essentiellement, pour l'été, on vient avec le principe du 75 % de personnes admissibles qui ont reçu une dose et 20 % qui ont eu les deux doses. Là, on répète, vous devez porter le masque, distanciation, etc. Vous pourrez vous rassembler en petits groupes en plein air avec votre famille et vos amis. Mais vous pourriez faire du camping, de la randonnée pédestre, des pique-niques, et être sur des terrasses. Donc, on présume de restaurants. Je dis bien, on présume. Et à l'automne, là, on prévoit des mesures comme la fréquentation des collèges, rassemblement familial. Si vous pensez qu'il n'y aura pas de rassemblement familial avant l'automne, alors que le nombre de cas baisse, que le nombre d'hospitalisations baisse, et j'ai vu plein de gens réagir. Même le premier ministre de Saskatchewan a dit « On n'aura pas un été à la Justin Trudeau, nous autres. Là. On a nos propres décisions. » Et donc, ce plan-là va être présenté demain. Et on le voit, les gens ont comme vraiment besoin. Et on avait plus de liberté l'été passé, alors qu'il n'y avait pas une dose de vaccin d'administrer. Je pense qu'on est rendu là. Et l'idée, c'est le plus vite possible, probablement. Puis en même temps, avoir au moins un calendrier, des dates de référence, être capable de dire... Puis je pense qu'on est très conscient, collectivement, qu'on ne peut pas se réunir à 50, qu'on ne peut pas se réunir à 40, mais de permettre à des gens, à l'extérieur, 6, 8 dans un premier temps, puis peut-être un peu plus tard, des petits rassemblements à l'intérieur, quand ça ne demeure pas des méga-parties puis des rassemblements fous comme on a vu à la Naudière, là, je pense que avec des gens qui sont pour la plupart vaccinés, au moins une dose, ça me semble assez logique, puis ça va permettre quand même de respecter d'autres mesures qui ne vont pas disparaître pour autant, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque. En vous parlant de ça, je regardais aux États-Unis, d'abord, c'est le CDC qui a dit, si vous avez vos deux doses de vaccin, bye-bye le masque et bye-bye la distanciation. Pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Beaucoup de commerces, d'abord, disent, on ne commencera pas à jouer à la police. Donc, c'est le système d'honneur. Quand vous nous dites, j'ai été vacciné deux fois, on te croit. Mais selon l'établissement, ça varie. Walmart, Costco, Starbucks ont décidé de respecter ça. Alors, vous allez aux États-Unis chez Walmart, puis vous dites, on vous demande ça à l'entrée, êtes-vous vacciné deux fois? Oui, parfait, entrez, pas de masque, faites ce que vous voulez. Le CDC répète que si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes très à risque d'avoir des complications graves et donc de développer des pathologies en raison de la COVID. Ce qu'on remarque également, c'est que vous avez des syndicats d'infirmières qui disent « là, on va trop vite, qu'on reprenne les activités, mais qu'au moins à l'intérieur, le port du masque soit quand même exigé, soit quand même demandé ». Alors, ça fait un peu le tour de la COVID. Je peux ajouter deux ou trois éléments. Ce matin, dans Le Devoir, on nous parle des fameux tests rapides selon la recherche, sont efficaces pour les cas, disons, des cas très précis. Et je vous donne des exemples. Si on se promène avec les tests rapides chez des gens qui sont asymptomatiques et un peu de façon aléatoire, ça ne semble pas donner beaucoup de résultats. Par contre, si vous avez des cas où il y a des symptômes, dans une classe, par exemple, ou dans un milieu de travail, puis vous décidez de tester rapidement les gens, bien, ça donne, semble-t-il, un certain résultat. Donc, dépister les asymptomatiques, ça ne sert absolument à rien. C'est Dr Crouache, Caroline Crouache, qui a tiré les conclusions de cette recherche. Par contre, ce qu'on découvre finalement, c'est que dans des situations, personnes qui ont des symptômes, bien, dans 70 % des cas, le test rapide va être positif. C'est un peu ce qui a toujours été pas mal dit, de tester dans des milieux où il y a éclosion. Ça permet souvent de prendre des décisions plus rapidement. Et en Inde, bien, c'est toujours, évidemment, l'horreur avec... écoutez, la semaine dernière, je regardais les chiffres, là. Il y avait 150 personnes à l'heure qui décédaient. Vous allez me dire, la population est immense, tant que vous voulez, là, ça demeure 150. Et là, ils ont des problèmes de matières premières, notamment pour l'oxygène. Et il y a toujours des bandits qui opèrent dans ça. Ils ont trouvé une compagnie qui s'appelle Varsha. Et c'est vous ce qu'elle faisait, la compagnie? Elle prenait des extincteurs pour le feu, qui était vide, peinturait ça comme une bonbonne d'oxygène, puis faisait croire qu'on pouvait mettre de l'oxygène là-dedans, puis vendait ça. Ce qui est évidemment un risque potentiel d'explosion majeur. Ils vendaient ça 200$, à peu près 10 fois le prix, là. Ça montre un peu jusqu'où les gens sont capables d'aller. Tantôt, avec Denis, on parlait évidemment de cette manifestation qui a mal tourné hier au centre-ville de Montréal entre les pro-Hamas, pro-Palestine et les pro-Israël. Il y a eu de nouvelles frappes. L'armée israélienne a indiqué avoir ciblé 9 maisons appartenant à des hauts commandants du Hamas. Donc, au total, dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation israélienne a repris ses raids à des dizaines de reprises. Il y a des centaines de bâtiments qui ont été endommagés. Et il n'y a jamais eu, semble-t-il, d'après des témoins, là, des frappes d'une telle ampleur qui ont touché Gaza. Et tout ça arrive alors que l'enclave palestinienne a enregistré dimanche son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de cette vague de violence. 42 Palestiniens, dont au moins 8 enfants. Et il y a 2 médecins aussi qui ont péri au total. On n'est pas loin de 200 Palestiniens tués, 58 enfants, 1200 blessés. Du côté israélien, 10 personnes tuées, 1 enfant, 294 blessés. Et l'idée, ce n'est pas de régler le conflit historique entre le Hamas et Israël. Ce sont des positions tellement polarisées. L'idée, c'est d'être capable d'amener une baisse de la tension, stopper l'escalade. Tout indique d'ailleurs qu'il y a des... discussions impliquant l'Égypte et d'autres pays, les Américains bien sûr, pour tenter d'amener les belligérants à baisser la pression. Parce que c'est vrai qu'il y a les raids israéliens, mais c'est vrai qu'il y a les raids du Hamas. Et ce sont des roquettes plus puissantes qu'avant, que le bouclier israélien arrive à intercepter dans la majeure partie des cas, mais pas tous les cas. Et on comprend que les positions sont campées. Alors l'idée, c'est pas d'essayer de dire qui a raison, qui a tort. L'idée, c'est y a-t-il moyen de baisser le ton. Et le premier ministre Netanyahou a dit, pour l'instant, on poursuit. Il dit, je vois pas vraiment, je le souhaite, mais je vois pas à quel moment on va stopper l'opération militaire. Et puis dans le New York Times, une excellente analyse hier qui disait, entre autres, jusqu'où la violence doit être une réponse et quelle est l'ampleur de la force utilisée dans un cas comme celui-là. On comprend qu'Israël se sente menacé, mais quand vous ciblez des immeubles, la bande de Gaza, c'est dense, des immeubles à hauteur. Et il est vrai que des chefs du Hamas se retrouvent dans ces immeubles où on retrouve familles et enfants. Et souvent, ces familles et ces enfants-là sont utilisés. Mais est-ce que la réplique est trop violente? La question est posée. Les Nations Unies ont demandé une espèce de cessez-le-feu pour qu'on puisse essayer de trouver, disons, un terrain d'entente. Mais comme je vous le disais, ça ne semble pas être le cas. Une histoire d'une tristesse dans la presse ce matin. On a beaucoup parlé des gens qui perdent leur logement, qui sont évincés parce que des propriétaires achètent des immeubles, prétendent qu'ils vont faire des rénovations et l'idée, c'est de foutre les vieux locataires à la porte, replomber l'espace puis de louer ça beaucoup plus cher. Et la personne, on ne peut pas l'identifier, s'appelle Julianne. Il y avait un appartement à Verdun et ça remonte à l'époque du maire Jean Drapeau. À 73 ans, il s'est suicidé. C'était le 4 février 2019. Deux mois avant, il avait reçu un avis d'éviction de la part de son nouveau propriétaire. C'est une histoire qui est racontée par Katia Gagnon et Maxime Bergeron ce matin. Enquête du coroner, Marie-Pierre Charland, qui sera avec nous tantôt, conclut qu'il n'y a aucun antécédent médical pertinent en lien avec le décès. C'est pas quelqu'un qui avait, dans le passé, montré des signes, pas de maladie mentale, prenait pas de médicaments comme tel, pas de drogue. C'est quelqu'un qui était attaché à son quartier, à son logement, et il venait d'apprendre, donc, qu'il était pour devoir quitter parce que le nouveau proprio décidait de rénover, donc de l'expulser. Et là, bon, on parle évidemment du propriétaire, ils sont plusieurs, là, ils font des compagnies à numéros, qui dit on est attristé, c'est vrai que c'est un peu notre façon de faire, on achète des immeubles, on essaie de les rénover, mais je pensais jamais que ça aurait eu cet effet-là. Et pour des personnes âgées, d'être déracinées, puis d'avoir le stress, nouvel environnement, puis les logements qui coûtent de plus en plus cher, c'est évidemment une histoire d'une tristesse infinie. Alors, on vous donnera d'autres précisions tantôt. Journal de Montréal ce matin, Denis Coderre fait jouer ses contacts pour la Formule 1. C'est dans le cadre de la négociation pour sauver le Grand Prix. Donc, on annule cette année, on prolonge de deux années. Et c'est le ministre Pierre Fitzgibbon qui l'a appelé pour lui dire « Tu connais du monde? » M. Coderre ayant travaillé à la Fédération automobile pendant un certain temps, il a dit « Ben oui ». Et il a fait des téléphones. Il n'a pas négocié, il a téléphoné, il a, disons, facilité les choses pour le ministre Fitzgibbon. Je pense pas qu'il y a de scandale là, là. J'essaie juste de voir. C'est comme si quelqu'un vous demande « Peux-tu m'aider? Tu connais du monde? » Je veux dire, s'il avait dit non, on aurait dit quoi? Il me semble que c'est un peu normal comme démarche. Première chose, ça a été un week-end difficile pour l'équipe Coderre, l'histoire d'Ali Nestor. Alors qu'on annonce des candidats intéressants dans l'équipe de Denis Coderre, arrive cette brique. Nestor devait être le conseiller à la sécurité publique, puis on comprend qu'il y a une plainte contre lui pour voie de fait, une histoire de violence conjugale, l'ex-conjoint est impliqué, ça va se ramasser au palais de justice. Ça, c'est un cauchemar pour n'importe quel chef de parti politique. Tu dis, mais comment ça se fait qu'il ne me l'a pas dit? Comment ça se fait qu'on ne l'a pas su? Puis tu sais, tu l'annonces, puis ça vient te rebondir. Puis là, tu as appris que Fortin, le chef des opérations vaccins au Canada, fait l'objet d'une enquête militaire. Donc, vendredi, c'était assez costaud. Manon Massé qui cède la place à Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, après leur activité de fin de semaine, où ils ont voté une motion contre les extrémistes, là, ceux qui voient, même à l'intérieur de Québec solidaire, du racisme, de la présence blanche qui est trop importante. Alors, Manon Massé a dit quoi? Elle a dit « Je retourne terrain, je retourne comme militante et je cède la place à Gabriel Nadeau-Dubois », ce qui fait que c'est comme un changement. M. Dubois est celui qui aspire à être premier ministre et sa co-porte-parole sera Manon Massé. Changement de fauteuil. Mais disons que ça vient un peu mettre de côté l'histoire de la fin de semaine quand même. Là. Quand Québec solidaire a l'air débordé par sa gauche, par des extrémistes, là, des gens qui disent que Québec solidaire, c'est un vieux parti, ça sert en même temps à la cause, tu sais. Veux, veux pas, tu dis, hein, ils ont l'air quand même assez modérés, Québec solidaire, par rapport à d'autres malades qui ont décidé, eux, d'aller ailleurs. Donc, elle renonce à son poste de chef parlementaire. Et je terminerai peut-être ce tour d'horizon avec une étude qui a été rendue publique par l'Organisation mondiale de la santé, qui tend à démontrer, vous me direz, c'est pas surprenant, mais c'est un rappel intéressant. Les gens qui travaillent plus de 55 heures par semaine, et je sais qu'à cette heure-là, le matin, il y en a beaucoup. Des gens qui sont sur la route, des gens qui travaillent dans différents commerces. Donc, plus tu travailles longtemps, 55 heures par semaine, le risque de décès augmente. C'est une hausse de 35 % du risque d'accident vasculaire cérébral. Et tout ça a été mené avant la pandémie. Fait que la pandémie n'est pas un facteur. Et le titre de l'étude, ou enfin une des conclusions, on travaille plus, pourquoi? Pour mourir plus vite. Et c'est peut-être juste un rappel qu'il y a d'autres choses dans la vie que de travailler sans arrêt. Et donc, les gens de l'OMS qui disent que de travailler plus de 55 heures par semaine, c'est un danger pour la santé, et pas juste pour des problèmes cardiaques, mais pour tout ce qui est souffrance mentale, pour des cas de dépression. Les longues heures passées au bureau ou à travailler sont quand même des facteurs à ne pas négliger. 6h23, 40 secteurs de Repentigny.